Bonjour Sandra, j'espère que vous allez bien. Je vais même être plus précis. Bonjour membres de l'Église Une réunis ici à Sandra. Et ce n'est pas le sujet de ma prédication, si vous voulez en entendre davantage sur l'Église Une, n'hésitez pas à vous inscrire au congrès SAVF. J'espère que vous allez tous bien, ça fait plaisir de voir certains frères et sœurs qui sont en convalescence parmi nous. C'est toujours une joie de voir les uns les autres. On a aussi des personnes qui nous visitent, soyez tous les bienvenus. J'espère que vous allez bien dans votre vie et que vous allez bien surtout dans votre marche avec le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je prie que ce matin le Seigneur vous permette de le découvrir ou de le redécouvrir, de découvrir un peu plus qui il est au travers de sa parole. Et si tout va bien pour vous, eh bien, j'espère qu'il vous fera encore progresser dans la sanctification. C'est Paul qui nous y encourage en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons. Dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Nous sommes appelés à progresser encore. Ce matin, nous allons voir ensemble un texte qui se trouve dans Marc, chapitre 9, versets 30 à 51. Je vous invite à le prendre sur vos bibles, sur vos smartphones, sur tout ce que vous avez à disposition pour pouvoir le lire. Et je vais juste rappeler quelques mots de contexte pour ce passage que nous allons lire ce matin. Jésus est toujours en Galilée. Il est en Galilée avec ses disciples, il est d'ailleurs en Galilée pour la dernière fois. Et certains de ses disciples ont assisté à la transfiguration. Un moment absolument exceptionnel. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils ont vécu ce moment exceptionnel que peut-être, je dis bien peut-être, certains de ses disciples se disent « on n'est quand même pas n'importe qui ». On est quand même supérieur, quoi. Et donc, en tout cas, tous ses disciples, là pour le coup, ont assisté aussi à la guérison miraculeuse d'un enfant. Et on en est là, en fait. Et je vous propose, avant d'aller plus loin, de lire notre texte. Donc, je répète, Marc chapitre 9, versets 30 à 51. En partant de là, ils traversèrent la Galilée. Mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. Il leur disait: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Eux, cependant, ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de lui demander des explications. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi avez-vous discuté en route ?» Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit: « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit: « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. » Et nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne nous suit pas. « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Messie, vraiment je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Si ta main cause ta chute, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied cause ta chute, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si ton œil cause ta chute, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » Jusque-là, c'était la partie qui était pleinement inspirée. Maintenant, on va essayer de discuter un peu de tout ce qui est dit dans ce texte. On voit ici Jésus, en fait, qui souhaite se déplacer silencieusement. Il ne souhaite pas qu'on sache qu'il est là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut prendre du temps avec ses disciples. Il veut prendre du temps en tête à tête. Parce que ce qu'il a à leur annoncer, c'est quelque chose qui est très important. Alors je dis annoncer, mais ça serait plutôt leur rappeler. Jésus leur rappelle sa résurrection. Et pour cela, il veut vraiment être seul avec eux. On note ici l'importance que Jésus accorde à la formation en tête-à-tête avec ses disciples. Et je pense que ça doit être déjà un rappel pour nous. Pour pouvoir être efficace dans notre service, nous avons besoin de passer du temps en tête-à-tête avec le Maître. Alors bien sûr, il y a la formation académique qui, quand elle est possible, apporte beaucoup de choses. Mais il y a surtout et avant tout le temps passé dans son culte personnel. Le temps que nous passons avec Jésus dans la parole de Dieu. Comment parler de quelqu'un que nous connaissons peu ou mal ? Comment transmettre de l'amour pour Jésus quand nous-mêmes, nous n'avons pas pour lui un amour qui brûle au point de vouloir passer du temps avec lui dans sa parole ? Certains disent être chrétiens parce que c'est comme ça qu'ils se définissent. Je prie vraiment que l'on puisse dire que l'on est chrétien parce que nous sommes disciples de Christ et parce que nous voulons passer du temps avec lui. Donc Jésus souhaite leur parler de sa résurrection. Nous n'en sommes plus à la découverte du fait que Jésus est le Messie. Ça, c'est Luc qui nous l'a rappelé aussi la semaine dernière. Jésus qui est celui qui est oint par l'Éternel, celui qui devait venir. Là, on va un cran plus loin encore. Il y a ce qu'est Jésus, le Messie, mais maintenant on va voir ce que va accomplir Jésus. Jésus annonce qu'il doit mourir et ressusciter. Il annonce ce que l'on appelle la passion. Vous savez, ce film « La passion du Christ » nous parle de ce temps-là. La passion, c'est quoi ? C'est l'ensemble des événements qui précèdent et qui accompagnent la mort de Jésus. Et nous voyons au verset 32 que les disciples n'osent pas lui poser de questions. Ça peut nous interpeller, c'est assez étrange. Et tu m'étonnes qu'ils ne veulent pas lui poser de questions. Eux, ils suivent le Messie, celui qui pour eux doit délivrer le peuple juif, il doit les délivrer de l'oppression. Dans leur tête, le Sauveur, en fait, c'est quoi ? C'est un futur roi, c'est un roi terrestre. Et ça explique d'ailleurs pourquoi ils veulent savoir parmi eux qui est le plus grand. Eux, la question qui se pose, c'est, mais une fois qu'il y aura la paix, une fois qu'il y aura tout qui sera revenu là, quelle place moi j'aurai dans tout ça ? Ils ne veulent pas entendre Jésus dire qu'il va mourir. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va à l'encontre de ce qu'eux, ils imaginent. Si Jésus meurt, eh bien du coup, c'est pour eux la fin de leur projet. C'est la fin de la vision qu'ils ont des choses. Ça va jusqu'à la fin de leur rêve de grandeur. Même si Jésus ressuscite, leur roi aura succombé devant l'oppresseur. C'est confus pour eux, donc ils ne préfèrent pas en parler. Ils préfèrent ne pas poser de questions. Mais Jésus leur en a déjà parlé. Souvenez-vous, en Marc, chapitre 8, versets 31 et 32, « Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. » Il leur dit tout cela très clairement. Donc là, en Marc, chapitre 8, il leur en a déjà parlé. En Marc, chapitre 9, il leur en parle. Et en Marc, chapitre 10, il va remettre encore une couche. Marc, chapitre 10, versets 33 et 34, Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet, le mettront à mort. Puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. » On voit l'insistance de Jésus sur ces événements. On voit l'insistance de Jésus sur sa résurrection. Alors nous, chrétiens d'aujourd'hui, sauvés par grâce, on connaît la valeur de cette résurrection. Réfléchissons ensemble quelques instants. Sans la résurrection de Christ, alors Christ n'a pas vaincu la mort. S'il n'y a pas de résurrection, Christ n'est donc pas maître sur la mort. Il n'est pas maître sur la vie non plus. Et s'il n'est pas maître sur la vie, alors il n'est pas Dieu et il ne peut pas nous donner la vie. Il y a de nombreuses autres implications. Mais cela nous montre déjà l'importance de bien saisir le sens de la résurrection de Christ. S'il n'y a pas de résurrection, tout ça ne sert à rien. Et bien ici, bien que Jésus ait évoqué déjà sa résurrection en Marc chapitre 8, il utilise un terme nouveau en Marc chapitre 9, un terme qu'il n'a pas utilisé avant. Il dit qu'il va être livré. Jésus va être livré. C'est singulier parce qu'il y a deux notions dans ce mot. En fait, aujourd'hui, quand on a l'histoire complète, on comprend qu'il va déjà être livré par Judas. Il va être trahi, il va être vendu. Mais il est aussi livré par son père comme sacrifice d'expiation. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice d'expiation ? C'est dire qu'il y a ce sacrifice qui est là pour payer à notre place. C'est ça un sacrifice d'expiation. Jésus se fait le serviteur de tous en se livrant à notre place. Être serviteur, selon notre monde, si on regarde la définition de notre monde, c'est être en fond de cour, c'est être en bas de l'échelle, c'est ne valoir presque rien finalement. Et Jésus va montrer qu'il en est complètement autrement dans le royaume de Dieu. Et cela amène cette question épineuse sur laquelle les disciples ont discuté. Qui est le plus grand ? C'est la question qui obsédait les disciples. Qui est le plus grand ? Dans le verset 33, il y a de nombreuses versions qui traduisent le mot qui est utilisé par « discuter ». Les disciples discutaient entre eux. Et franchement, quand on le lit comme ça, on peut se dire « en fait, ça donne l'impression d'une discussion sympa, histoire de passer un peu le temps en chemin ». Et le terme qui est utilisé ici, en fait, signifie « amener ensemble différentes raisons, dénombrer les raisons, raisonner, tourner dans sa tête, délibérer ». En fait, ils n'étaient pas en train de discuter en mode « tiens, on va tchatcher histoire de passer le temps ». En fait, ils étaient en train de débattre. Débattre avec cette notion de « il y a des arguments derrière ». Ils sont en train de débattre pour savoir qui est le plus grand. On est bien loin, en fait, d'une petite discussion sympa. Les disciples n'avaient pas une discussion neutre ou anodine. Ils étaient donc en train de débattre. Et ça, ça révèle l'importance que ce sujet-là, qui est le plus grand, l'importance que ce sujet revêt pour eux. Quand Jésus leur demande ce dont ils ont débattu, ils sont honteux, ils se taisent. Ils imaginent peut-être que Jésus n'est pas au courant. Quelle naïveté. On voit qu'ils ont un problème en fait sur leur priorité. Jésus vient de leur dire, les gars, je vais être livré, je vais mourir et je vais ressusciter. Et eux, ils se demandent, ouais, mais c'est qui le plus grand entre nous ? Il y a un décalage énorme. Quand on lit ça, on peut être indigné. On peut être triste de lire ça. Comment est-ce qu'ils peuvent manquer de sensibilité à ce point ? Comment est-ce qu'ils peuvent être aveugles à ce point sur ce qui compte réellement ? Mais peut-être que je devrais balayer devant ma porte avant de les juger. Est-ce que j'arrive toujours à placer les bonnes priorités ? Mon épouse pourrait vous répondre là-dessus. Est-ce que quand je lis dans sa parole que Dieu a livré son Fils Jésus pour moi, pour mes péchés, est-ce que je ne reviens pas un peu trop vite à d'autres préoccupations qui sont peut-être futiles, sans prendre le temps de remercier mon Dieu parce qu'il est admirable et parce qu'il m'a sauvé ? Est-ce que je me rends toujours compte de ce que Dieu a fait pour moi ? Est-ce que je passe pas un peu trop de temps à me regarder le nombril en me demandant quelle est ma valeur, ce que les autres pensent de moi, plutôt que de me concentrer sur celui qui me donne ma valeur, à savoir Jésus-Christ ? Car en effet, qu'est-ce que j'ai qui ne m'est pas été donné ? Qui suis-je, sinon un disciple de Christ ? Et qu'est-ce qu'un disciple qui n'a pas de maître ? Un homme quelconque ? Tellement d'églises se sont divisées à cause de l'orgueil de quelques-uns. Tellement de familles se sont déchirées parce que les conjoints se sont considérés comme plus grands que leurs épouses ou que leurs époux. Combien de partenariats, d'œuvres, de missions se sont achevées dans un triste chaos à cause de l'orgueil de certains. L'homme est orgueilleux. L'homme cherche à se placer au centre, bien souvent. Et c'est ce que je fais trop souvent, c'est ce que nous faisons trop souvent. Et c'est ce que les disciples font ici. Et Jésus en a conscience. Il voit là un problème qu'il faut régler. Il voit qu'il y a un curseur qui est mal ajusté. Il va falloir replacer les choses au bon endroit, c'est-à-dire sur lui. On utilise un mot qui parle de lui-même pour parler de ça. Ce mot, c'est christocentrique. Avoir une vie personnelle, une église, un discours christocentrique, c'est replacer Christ et son œuvre au centre. Et c'est exactement ce que Jésus s'apprête à faire ici. Alors bien sûr, une personne qui ne connaîtrait pas la nature de Jésus pourrait se dire qu'en fait, Jésus cherche à faire ce qu'il reproche à ses disciples, à se placer au centre. Mais rappelons-nous que Jésus est Dieu. Rappelons-nous qu'il est le Dieu de toute éternité. éternité antécédente et postérieure. Rappelons-nous que le monde a été créé par lui et pour lui. Et on comprendra que chez Jésus, le fait de centrer les choses sur lui-même, ça n'est pas de la vanité, mais c'est simplement une juste appréciation des choses. Et donc Jésus, pour replacer les choses à leur juste place, va appuyer sur quatre points. Premièrement, se faire le serviteur de tous. Deuxièmement, se refuser à toute domination. Troisièmement, se rabaisser pour ne pas être une occasion de chute. Et en conclusion, préserver le sel et la paix fraternelle. Si quelqu'un doit être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. On n'a pas toujours envie de l'entendre, cette phrase-là. Pas forcément facile. Mais ça plante le décor et ça rappelle clairement ce que Dieu veut pour ses disciples. La question n'est pas de savoir combien de personnes il y a en dessous de nous. La question, c'est de savoir combien de personnes on sert, combien de personnes on aide, de combien de personnes on sera le soutien, le serviteur. C'est ça la vraie question. Jésus, en fait, renverse complètement la logique des disciples. Et finalement, c'est aussi la logique de ce monde. La façon dont Dieu voit les choses, les règles du royaume éternel, sont fondamentalement différentes de celles de notre monde. Le monde dit une chose toute simple. Le monde dit « réussir, c'est dominer ». Dieu dit « réussir, c'est servir ». Ça change les choses. C'est un paradigme qui nous paraît complètement fou. Mais c'est pourtant le titre de cette prédication, « Le service conduit à l'honneur ». Et Jésus montre l'exemple car il l'a annoncé. Il doit être livré, battu, tué, et alors il ressuscitera. Dans la vision du Messie de l'époque, on était plutôt sur un discours qui était « Le Messie, il viendra, il va battre, il va tuer et il va délivrer », à l'image des juges de l'Ancien Testament. Et même si chacun des juges de l'Ancien Testament était ce qu'on appelle un prototype de Christ, en cela qu'il manifestait l'un ou des attributs ou des facettes de Jésus ou de son œuvre, ce n'est pourtant pas comme cela que Jésus va faire les choses. Jésus s'est livré et il s'est ainsi fait le serviteur de tous. Et c'est à cela que les disciples sont appelés. Et par extension, nous aussi. Nous devons d'être les serviteurs de tous. Jean chapitre 15, verset 13, qui est le verset de mon baptême, qui remonte à il y a 24 ans, nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien souvent, on a une compréhension très littérale de ce verset, dans la notion de vraiment, littéralement, donner sa vie. Mais on peut aussi comprendre cette notion de mettre sa vie au service des autres, devenir le serviteur de tous, en donnant sa vie pour les autres. Il est aussi important de noter que nous ne sommes pas appelés à nous autoproclamer ou nous placer en tant que serviteurs de Dieu, comme si cela nous définissait, comme si c'était un titre honorifique. Ça n'est pas un rang, ça sera encore trop d'honneur que nous nous ferions. Être serviteur de Dieu, ça n'est pas un titre, c'est une fonction. Car c'est en servant les autres que nous sommes serviteurs de Dieu, et non pas parce que nous le décidons ou que nous le proclamons. Et pour illustrer son propos, Jésus prend un petit enfant, le serre dans ses bras, puis enseigne les disciples. Alors j'aimerais juste faire une petite remarque. J'aime énormément cette précision sur la tendresse de Jésus. Il prend un enfant, il le serre dans ses bras. Il n'utilise pas ce petit enfant simplement en mode « toi viens ici, j'ai un truc à dire ». Il ne l'utilise pas pour illustrer son propos uniquement, mais il le serre dans ses bras, il le considère et il l'aime. Lorsque Dieu nous appelle et nous utilise, nous ne sommes pas des objets à usage unique, dénués d'intérêt. Non, lorsque Dieu nous appelle, il nous serre dans ses bras. Il nous considère comme une personne de valeur. Ce qui donne de la valeur à ce petit enfant, ce n'est pas son statut ou son rang. À l'époque, les enfants étaient très très loin d'avoir le statut le plus enviable qui soit. Ils étaient en fait tout en bas de l'échelle sociale et domestique. En fait, on est très très loin de la vision de l'enfant roi qu'on a aujourd'hui. Non, ce qui donne de la valeur à ce petit enfant, c'est que Jésus l'aime. Ce qui nous donne à tous de la valeur, c'est que Jésus nous aime. Et puis pensons à ce petit enfant, à ce qu'il doit se dire, franchement. Pourquoi est-ce que le rabbi me prend par la main pour mettre au milieu de 13 gaillards ? Moi, j'ai rien fait de mal, moi. Vous imaginez les sentiments qui devaient passer dans sa tête et dans son cœur ? Mais là, Jésus le serre dans ses bras. Ça le rassure. C'est une façon de lui dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc Jésus rassure ce petit enfant. Et c'est ce que Jésus fait avec nous aussi. Jésus ne nous utilise pas au détriment de nos émotions. Nous ne sommes pas des objets à utiliser quoi qu'il en coûte. Dieu prend en compte qui nous sommes quand nous entrons à son service. Et à l'image de ce petit enfant, les disciples doivent abandonner toute notion de rang ou de gloire. La question n'est pas d'être le plus grand, mais d'être le plus humble. Jésus nous appelle tous à avancer vers cela, en laissant de côté nos ambitions de gloire et d'honneur, en abandonnant notre orgueil ou notre désir d'être connu ou reconnu. Dieu nous appelle à nous mettre au service, à devenir les serviteurs de tous. Et je suis convaincu qu'une société qui marcherait par la foi, où chacun serait au service de son prochain, rendrait chacun bien plus heureux que cette société dans laquelle nous vivons, où il faut réussir à tout prix, quitte à écraser les autres. Nous arrivons à cette deuxième partie, se refuser à toute domination. Nous voyons Jean qui dit à Jésus, « Quelqu'un chasse les démons en ton nom, mais sans nous suivre. » Il met vraiment l'emphase là-dessus. Et Jésus lui dit, « Ne l'en empêchez pas. » On voit ici que Jean, et par extension les disciples, n'acceptent pas que quelqu'un puisse faire quelque chose au nom de Jésus s'il ne les suit pas, s'il ne suit pas le groupe. Et là se pose la question de l'appartenance. À quel groupe aujourd'hui on pourrait même étendre cela? À quelle congrégation? À quelle famille d'église appartient cet homme-là s'il n'est pas avec nous? Mais Jésus leur rappelle deux choses. Premièrement, il n'y a pas de concurrence au sein du royaume. Tous sont appelés à être serviteurs. Et deuxièmement, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'il suit Jésus? Est-ce que cet homme qui fait ça suit Jésus? Et Jésus met ça en parallèle avec le fait de donner un verre d'eau. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est le fait d'exercer l'hospitalité. On pourrait penser qu'il y a quand même une échelle de valeur. Franchement, une différence de mérite entre quelqu'un qui chasse les démons et quelqu'un qui donne un verre d'eau. Et en fait, Jésus rappelle que ce qui compte, ça n'est pas le faire, c'est l'être. Celui qui devient serviteur, même en donnant un verre d'eau, celui-là ne perdra pas sa récompense. Parce que dans les deux cas, ils sont serviteurs. On voit ici Jésus qui rappelle quelque chose de fondamental. En fait, Jean, lui, il va centrer sa justification sur le « nous ». Il ne nous suit pas. Jean, encore une fois, replace les choses au bon endroit. Il replace les choses sur lui-même. Si cet homme fait cela, c'est en mon nom. Jésus précise que les miracles sont accomplis en son nom. Et il dit juste après, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et ça, c'est très intéressant l'enchaînement. D'abord, il se place au centre. Il fait cela en mon nom. Et après, il dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus, en fait, rappelle une chose fondamentale. Il n'y a pas de nous si lui n'est pas au centre. Quand on regarde notre Église, il faut bien le reconnaître. Il a raison. Notre Église est riche de sa diversité, j'aime le rappeler assez souvent. Mais est-ce qu'on se réunirait si Jésus n'était pas notre point commun? Est-ce qu'on serait tous ensemble là? Je ne suis pas sûr. Si nous n'avions pas Jésus, nous n'aurions sûrement jamais eu la chance de nous rencontrer les uns et les autres. Ce qui fait que l'on peut parler de nous, nous tous ensemble, c'est que nous sommes disciples de Jésus. C'est ce qui fait que l'on prend plaisir à se découvrir les uns les autres. C'est parce que Christ nous a réunis tous ensemble au pied de la croix que nous avons ce plaisir à être ensemble. Par Jésus, en fait, nous ouvrons les portes d'un monde bien plus vaste, un monde fait de nouvelles connaissances et d'amour fraternel. Là encore, celui à qui nous devons tout cela, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Jésus. Nous arrivons à notre troisième point, se rabaisser pour ne pas être une occasion de chute. Et là, on rentre ici, en fait, au cœur du souci pastoral de Jésus. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on la jette à la mer. Là, on ne parle pas de la petite meule domestique. La petite pierre, vous savez les meules, comment elles fonctionnent. Il y a deux pierres, il y a des petites pierres domestiques, des meules domestiques, mais là, on parle de la grosse, celle du village, celle où font un âne pour le tourner. Et là, on voit, franchement, Jésus, il y va fort, quoi. Si vous êtes une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient en moi, mais franchement, on vous attache ça autour du cou et on vous jette dans le lac, quoi. C'est pas rien. Et dans ce passage, en fait, il faut vraiment comprendre ce dont Jésus parle. Ces petits qui croient en moi. En fait, ces petits qui croient en Jésus sont ceux qui découvrent la foi. Et d'ailleurs, au passage, ça peut être des enfants ou des adultes. Ceux qui débutent dans la vie chrétienne, ceux qui apprennent à saisir la signification et donc l'implication de cette mort et de cette résurrection de Christ dont Jésus vient de parler. Toutes ces personnes qui arrivent dans l'inconnu, qui font ce pas de foi d'entrer dans quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on se rappelle ou est-ce qu'on comprend toujours bien l'impact que la découverte de la foi représente pour quelqu'un? Personnellement, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Mais ça signifie aussi une chose, c'est que tout mon système de valeurs, tout ce qu'on m'a enseigné, concordait avec l'enseignement de la parole de Dieu. Avant de me faire baptiser, c'est vrai, il a fallu quand même que je remette en cause un certain nombre de choses sur la pertinence de l'éducation que j'avais reçue, et je me suis posé cette question, est-ce que ce que je sais, ou est-ce que ce que je crois savoir, vient d'une tradition humaine, ou est-ce que ça vient réellement de la parole de Dieu? Il faut se poser cette question, même quand on vient d'une famille chrétienne. Mais il faut reconnaître que ça n'a pas chamboulé mon système de valeurs. Mais une personne qui découvre la foi réellement, qui n'a jamais entendu parler de Jésus avant, qui vient à la foi et qui se rend compte qu'il va falloir remettre en cause tout son système de valeurs, eh bien tout cela peut être très déstabilisant. Ça la chamboule. Et Jésus, il en a conscience, il le sait. Et il sait à quel point il faut accompagner, à quel point il faut aimer, à quel point il faut protéger ceux qui sont des petits-enfants dans la foi. Je vois la façon dont Lynn, notre fille de 10 mois, la façon dont elle grandit, les avancées qu'elle fait. Mais à aucun moment je dois projeter sur elle un planning de progrès avec des attentes sur ce qu'elle doit ou ne doit pas savoir faire à un certain âge. Il en va de même avec nos frères et sœurs qui sont plus jeunes dans la foi. Nous devons les accompagner pour qu'ils se rapprochent de Christ. Et c'est Dieu qui va changer leur cœur. Et à aucun moment, on doit être une occasion de chute pour eux. On doit les accompagner, pas les faire tomber. Marc, guidé par le Saint-Esprit, s'adresse à des responsables d'église. Il leur rappelle qu'il faut prendre soin des brebis du troupeau. Ça concorde à ce que nous a dit Martial ce matin. Nous sommes appelés à prendre soin des brebis du troupeau et de toutes les brebis du troupeau. Parfois, on voit des personnes qui avancent très bien, très fort. Et on se dit, je vais l'accompagner, lui, c'est un fonceur. Que fait-on de ceux qui prennent parfois un peu plus de temps, dont la foi n'est pas moins sincère, mais qui ont peut-être besoin d'un peu plus de temps et d'explications? Eux aussi font partie des brebis du troupeau. Nous sommes toujours dans ce chamboulement de valeurs, ce changement de paradigme. Celui qui veut être grand se fait le serviteur de tous, en prenant particulièrement soin de ceux qui sont enfants dans la foi. Et Jésus nous rappelle suite à cela que si ta main, ton pied ou ton œil est une occasion de chute, alors il faut jeter loin de toi. J'ai parfois entendu des prédications où on cherchait à attribuer un rôle particulier à chacun de ces membres cités ici. L'œil représentait ce que l'on voit, la main ce que l'on fait, le pied là où on va. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Mais je pense qu'il faut surtout voir une accumulation, une répétition. C'est un procédé stylistique qui cherche à mettre de l'emphase sur un message. Si quoi que ce soit est pour toi une occasion de chute, alors débarrasse-t'en. Je me permets de souligner que Jésus ne parle pas ici de perte du salut, mais plutôt de péché non considéré, qui serait un obstacle à notre entrée dans la vie de serviteur. Il dit bien, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie que... On n'est pas dans la perte du salut. Et c'est un principe qui s'applique à celui qui entre dans la vie avec Christ, et donc, a fortiori, à celui qui y est déjà. L'acceptation de se débarrasser, et même n'ayons pas peur des mots, d'éradiquer ce qui pourrait être pour nous une occasion de chute, nous montre que rien ne doit faire obstacle au développement de notre foi. Et cela demande parfois des sacrifices. Et on voit ici le cœur pastoral de Jésus. Jésus est en train de leur dire, prenez soin des autres et prenez soin de vous-même. Et ça, ça demande des sacrifices. Et cette notion de sacrifice, elle fait complètement le lien avec la fin du chapitre. Parfois, la fin du chapitre peut nous surprendre. Préserver le sel et la paix fraternelle, ça peut nous surprendre que ça soit là, mais en fait, quand on comprend que Jésus nous demande de faire des sacrifices, on comprend pourquoi il y a cette notion de sel. Au verset 49 jusqu'à 51, « Chacun sera salé au feu, c'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » La notion du sacrifice, elle est liée au sel, parce que c'est un signe d'alliance avec Dieu. Ça, c'est le livre du Lévitique qui nous le dit. Je vous mets le passage ici. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, qui est le signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Le sel, c'est le signe de l'alliance que l'on a avec Dieu. En devenant serviteur, nous marquons cette alliance que Dieu a faite avec Moïse et par extension avec son peuple dont nous faisons partie. Nous sommes le peuple de Dieu. Verset 49 nous dit « Chacun sera salé au feu ». Le fait d'être salé de feu peut rappeler aussi cette notion d'une vie où il y a des épreuves, des difficultés. Le feu de l'épreuve nous permet de vivre la vie de serviteur. Car c'est en nous appuyant sur Dieu que nous découvrons le vrai sens de l'intimité avec lui. Avec mon épouse, nous avons vécu quelques épreuves et cela nous a beaucoup rapprochés, à la fois l'un de l'autre, mais aussi et surtout de Dieu. Et aujourd'hui, même si ça peut paraître étrange, à certains, on peut vraiment remercier le Seigneur pour ces épreuves qui nous ont fait grandir. Ces épreuves sont là aussi pour nous faire grandir. Rappelez-vous qu'aucune épreuve qui n'est survenue n'est humaine. Et qu'avec l'épreuve, Dieu donnera aussi le moyen d'en sortir. Et c'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur? Nous sommes aussi appelés en tant que serviteurs à être le sel de la terre. Nous donnons à ce qui nous entoure le parfum, la saveur, le goût de Christ. Vous vous rendez compte de la responsabilité que c'est? Heureusement que c'est Dieu qui nous rend capables de le faire. Nous sommes appelés à donner autour de nous, là où nous sommes, le goût de Christ. Ce parcours de Jésus, cette passion qui nous est décrite ici et dont les disciples ne voulaient pas parler, c'est cela que nous devons présenter au monde. Que ceux qui nous entourent découvrent le vrai sens du sacrifice divin qui a été consenti sur cette croix. Et finalement, on finit ce passage d'aujourd'hui avec « Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous ». Jésus nous appelle à avoir du sel en nous-mêmes. Ce sel, il avait quel rôle? Il conservait les aliments, il empêchait la corruption, la putréfaction. En fait, ce que Jésus nous appelle à vivre, c'est une vie qui est en accord avec notre appel de serviteur. Une vie de paix au service de tous. Sommes-nous prêts à nous faire serviteurs de tous? Sommes-nous prêts à être au service de chacun? Pour que le plus grand, ça soit notre Dieu, encore et toujours. Que la gloire lui revienne aujourd'hui pour l'éternité. Amen.
Merci Jérémy pour ton message. Je retiens une phrase. Pour le monde, réussir c'est dominer, mais Dieu nous dit réussir c'est servir. Nous sommes tous appelés à servir. Je vous invite à prendre un dernier chant, le roi serviteur. Merci au groupe de musique. Merci beaucoup.
J'aime 2. Ça s'appelle « Tu es venu jusqu'à nous ».
Jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. jardin de douleur où mon fardeau brisa ton cœur. Tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre, se livre au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner. C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant.